RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena.
Alors que la science ne permet toujours pas d'affirmer si les ondes sont dangereuses pour la santé, la justice française, elle, a tranché et reconnu par deux fois des êtres humains victimes des ondes à leur travail. Vous n'y croyez pas et cela vous semble d'un autre âge. Vous en étiez sûr vraiment, mais vous pensiez que ça n'était pas vrai jusqu'à ce que ça vous arrive. Vous vivez dans une zone blanche sans ondes et vous allez mieux. Quels sont véritablement les signes de l'électro-hypersensibilité? Faut-il, oui ou non, se méfier des ondes? Je vous attends au 3216 et sur Twitter, hashtag McomM.
RMC, M comme Maïtena.
En France, entre 1 et 2% de la population déclare souffrir d'électrosensibilité.
On a des maux de tête, des nausées, des vertiges, on peut avoir de la tachycardie, certains ont des acouphènes.
Je pense tout d'abord qu'il s'agit d'une maladie de nature psychosomatique.
On manque cruellement d'études scientifiques rigoureuses et bien menées.
Les opérateurs de téléphonie mobile nous livrent-ils les chiffres exacts en ce qui concerne les émissions d'ondes électromagnétiques?
Ils vont être victimes de ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes. C'est comme s'ils étaient électrocutés lentement.
Maïtena Birabin.
Ça fait pas rêver, dites donc. Bonjour Pascal Sabama.
Bonjour Maïtena.
Ça me fait rire parce qu'on écrit journaliste high-tech à BFM TV. J'adore l'idée que tu sois high-tech, tu vois.
Je suis pas du tout high-tech.
C'est drôle.
Si, j'adore la tech depuis longtemps maintenant. Je fais de l'écho aussi, bien sûr, sur BFMTV.com. Et bien sûr, j'ai vécu l'arrivée des smartphones, l'arrivée de...
Eh oui.
Et je ne suis pas plus malade depuis.
Ok. Non, au-delà de la plaisanterie qui est réelle, est-ce que les ondes c'est un marronnier comme on traite du poids des cartables à la rentrée ou de la manière dont on fait le chocolat à Pâques?
Ben c'est un sujet. On a l'habitude d'avoir des réponses à tous les sujets, à toutes les questions qu'on se pose sur les ondes, sur ce sujet-là principalement.
Oui.
On n'arrive pas à avoir de réponses solides. On n'arrive pas à dire oui. Il y a un effet ou non,
oui.
Il n'y en a pas. On voit les scientifiques qui sont assez prudents,
ouais.
Qui disent oui, on constate que des gens ont des problèmes, se plaignent de maux et
on ne peut pas les expliquer.
Mais on ne peut pas les expliquer. On voit de l'autre côté les technologies qui disent auxquels au-delà duquel on peut pas dépasser. On voit aussi quand même qu'on est entouré d'ondes et qu'il n'y a pas des hécatombes de personnes qui sont malades. Il y a des ondes partout.
On peut aussi se dire qu'on n'a pas le choix.
On peut aussi, mais le nombre de malades n'augmente pas depuis qu'il y a des antennes relais.
Pascal, il nous fait toute l'émission en 5 minutes, dis donc. On va prendre le temps, évidemment, de détailler tout ça. Bonjour Sophie Pelletier.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la présidente de l'association Priartem. Alors, j'explique clairement ce que ça veut dire. Pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Vous n'êtes pas chez Priartem une bande de néobabes échevelés. Votre association est reconnue d'intérêt général. Elle est agréée usager des systèmes de santé et protection de l'environnement, des agréments qui sont remis par l'État.
Tout à fait.
Donc vous êtes sérieux, crédité et des interlocuteurs de l'État.
Alors, c'est la première association qui a été créée.
Absolument.
Sur ce sujet-là en 2000.
Oui, en 2000. La justice a donc reconnu, et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, le 17 janvier dernier, l'électro-hypersensibilité d'un technicien au titre d'une maladie professionnelle. Il y avait déjà eu un autre dossier en septembre 2018 où les juges avaient aussi qualifié d'accident du travail un malaise dû aux expositions des ondes. Est-ce que vous savez de quoi souffraient ces deux personnes?
Elles ont développé des symptômes compatibles avec une électrosensibilité, des maux de tête, de la grande fatigue, des problèmes cardiaques, des problèmes de sommeil, tout un ensemble de symptômes qui évoquent une électrosensibilité.
Sauf que quand vous me dites ça, ça peut aussi évoquer une dépression, ça peut aussi évoquer une baisse de forme. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'électrosensibilité et pas autre chose? Qu'est-ce qui nous permet de faire la différence?
Alors, chez certaines personnes, ça peut être effectivement difficile à détecter parce qu'effectivement, ça s'apprend
des signes un peu communs, on va dire.
Une pathologie de type fatigue chronique,
ouais.
Ou fibromyalgie. Par contre, chez certaines personnes, les troubles peuvent apparaître très brutalement,
ouais.
Et se manifester du moins dans une période au démarrage de la pathologie, se déclarer très en lien avec des expositions. Par exemple, enfin moi c'est le cas. Moi je suis tombée malade en 2011 et il y a
dans quel cadre professionnel
dans le cadre professionnel aussi. Je travaillais à la Tour Montparnasse.
Oui.
Donc j'étais assez fortement exposée par l'environnement dans la tour et j'ai eu des troubles déclenchés très brutalement et que j'ai pu rapidement mettre en lien avec mes expositions, soit à des téléphones portables ou à la Wi-Fi. Donc ça,
oui.
Tout un panel de personnes sont dans ce cas-là. Ouais. Et donc là, c'est plus facile de faire le lien pour
ici,
ces personnes.
Pardon, Sophie Pelletier, mais oui. Ici, là, dans le studio, ici, où il y a les oui, équipes de BFM, de RMC, c'est douloureux pour vous, vous alors, il se passe quelque chose pour vous, là?
Alors, aujourd'hui, heureusement, j'ai récupéré. Donc,
donc on se soigne.
Bah, pour certaines personnes, je suis manifestement, j'ai pu être arrêtée par mon médecin et me mettre à l'abri, on va dire, assez tôt. J'ai quand même été arrêtée 4 ans. Pour cette raison-là,
donc
j'ai
en pu, arrêt maladie voilà. professionnel reconnu.
Alors pas en arrêt, enfin en arrêt maladie, mais pas en maladie professionnelle. Hein,
d'accord.
C'est un cadre ça, c'est très spécifique, on d'accord. va dire. Mais effectivement, si on peut être mis à l'abri suffisamment tôt.
Alors excusez-moi, c'est quoi être mis à l'abri?
Moins exposé, c'est-à-dire oui. notamment chez soi, pouvoir récupérer, pouvoir redormir, puisque en fait un des premiers signaux oui. c'est des insomnies, des réveils nocturnes oui. et des difficultés de rendormissement, une très très grande fatigue. Donc évidemment, quand on ne dort plus,
c'est difficile, Sophie Pelletier, parce que plus, tous ces signes ils peuvent être communément partagés par bien d'autres pathologies. Alors c'est très très compliqué de mettre le doigt
d'où
dessus.
D'où la difficulté
hein.
effectivement, et d'où le problème qu'on a effectivement pour faire reconnaître et avancer ce
bien
problème-là.
Sûr, bien sûr.
Parce qu'on nous oppose effectivement ces arguments-là.
Quels arguments?
Les
arguments
le fait que ça n'est pas voilà,
c'est communément
ça n'est non, pas mais, très
les signes ils sont là, ils voilà. existent hein. Donc évidemment
et donc,
on peut
nous,
pas faire comme si c'était pas là, mais
c'est bon. Effectivement d'avancer alors, sur la recherche et notamment clinique.
Alors vous allez nous dire comment vous avez posé un diagnostic, mais David nous a rejoint en 32-16. Bonjour David.
Bonjour Maïté.
Bienvenue à vous David. Vous êtes concerné par ce problème d'électro-hypersensibilité?
Alors oui, moi j'ai jamais appelé comme ça.
Ouais.
Mais,
vous appelez ça comment vous?
Je sais pas, j'ai pas trop donné de nom. Le truc c'est que je me suis rendu compte que je commençais à faire des migraines ophtalmiques
ouais.
et du coup des migraines complètes après. Et il a fallu que je recherche parce que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, on va dire,
ouais.
et j'en avais jamais fait. Il n'y a pas de migraineux dans ma famille, donc mm-hmm. c'est pas d'ordre familial. Et j'ai vraiment cherché dans tous les domaines et j'ai petit à petit réussi à finir la recherche avec la relation avec le téléphone. Moi, je suis commercial et on a commencé il y a une vingtaine d'années à faire des actions qu'on appelait des téléventes. Et on regroupait plusieurs commerciaux dans des salles de réunion.
Ouais.
Et comme il n'y avait forcément pas assez de téléphones fixes, tout le monde appelait toute la journée avec les anciens téléphones assez gros.
Oui, les gros là qu'on voyait dans les films américains avec avec Michael Douglas, Greed is Good, les espèces de trucs énormes avec les antennes rigides.
Oui. Bon, okay. Peut-être pas aussi gros que ça, mais bon.
Bah
voilà,
si, je vous ai mis au 19e siècle, David, là, bim, d'un coup.
Enfin, bref. Et pour affiner tout ça, au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte. Alors, je la déclenche jamais dans la journée. C'est toujours le soir ou le lendemain quand il y a des compressions où je fais une migraine ophtalmique et une migraine assez forte. Et maintenant, j'en suis sûr. Quand je me retrouve dans une salle de réunion avec plein de téléphones portables branchés et puis maintenant les tablettes aussi qui ont des cartes trucs 4G,
oui.
Ça se développe vite. Ça part là-dessus. Et...
Vous en avez parlé à un médecin, David, ou vous vous êtes auto-diagnostiqué?
Non, j'en ai pas parlé à un médecin, je me suis auto-diagnostiqué. Ouais. Maintenant, j'utilise le téléphone comme tout le monde beaucoup, donc la nuit, il est en mode avion.
Ouais.
Et puis, je fais attention comme ça, en essayant de faire des breaks, quoi.
On va voir tous les gestes, évidemment. Tout à l'heure, on va passer en revue tous les gestes qu'il vaut mieux éviter de faire. Dans le doute, abstiens-toi. Mais on va revenir, évidemment. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Vous posez tout à fait le cadre avec Sophie Pelletier et avec Pascal Samama. Effectivement, poser un diagnostic quand les symptômes sont communs à bien d'autres choses. Je suis pas en train de minimiser les symptômes. Je suis en train de dire, il y a tous les gens qui nous écoutent là, qui se réveillent la nuit, ne sont pas forcément électrosensibles. Il y en a peut-être qui dorment mal, d'autres qui sont des symptômes qu'on peut tous avoir, qui ne veulent pas pour autant dire ça, donc d'où la difficulté évidemment de dire c'est dû à ça. Vous avez votre instinct, on va essayer d'aller au-delà de juste un camp contre un autre, mais Pascal Samama, on va rappeler effectivement dans un instant que si la justice elle a tranché en disant oui, c'est à cause de ces ondes que ces deux personnes ont été malades sur leur lieu de travail, les études scientifiques qui ont lieu jusqu'à maintenant, et on va en parler, ne prouvent rien, doute, mais ne prouvent rien. L'OMS, elle, a tranché, c'est dans le cadre du doute. Donc n'hésitez pas à nous appeler, vous faites le 32-16, vous allez sur Twitter, hashtag MQMM, pour nous faire part de vos réflexions, si vous êtes crédule, ou si vous dites, finalement, peut-être que ça existe. Il est 14h14, vous êtes sur RMC.
RMC, M comme Maïtena.
Ça me brûlait les bras, ça me brûlait le visage, ça me brûlait dans le cerveau.
Aucun chiffre officiel n'existe, mais on estime que plus de 4 millions de Français seraient sensibles aux ondes électromagnétiques.
La causalité, elle n'est pas démontrée et aucune étude scientifique correctement conduite n'a conduit à une conclusion positive.
Pour la première fois, un téléphone mobile doit être retiré de la vente parce qu'il émet trop d'ondes.
Nous savons aujourd'hui que nous avons tous, depuis plus de 20 ans, été surexposés à de 2 à 10 fois les seuils à ne pas dépasser pour protéger notre santé.
Maïtena Birabin.
Nous parlons donc de ces ondes. Est-ce qu'il faut, oui ou non, s'en méfier? Est-ce qu'il faut avoir peur de votre téléphone portable, de votre micro-ondes, de votre radio? Nous parlons de tout ça avec Sophie Pelletier, qui est présidente de l'association Priaterme, qui est reconnue d'utilité publique, d'intérêt général, pardon, qui est agréée usager du système de santé et protection de l'environnement et qui se bagarre pour que les ondes soient reconnues à la hauteur de leurs problématiques. Pascal Samama, vous êtes journaliste à BFM TV. Est-ce que, Pascal, on est dans un dialogue ou dans un affrontement les ondes, c'est pas bon pour la santé, ou non, les ondes, c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est aussi manichéen que ça? Ou est-ce qu'il y a une position entre deux?
Selon les études, et on peut pas reprocher aux gens qui font des études d'être orientés d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a l'OMS, il y a l'ANSES, il y a des grosses universités, il y a la Sorbonne qui a fait il y a pas longtemps une étude qui a constaté la production de toxines quand on exposait des gens trop près d'ondes. Il y a une université américaine qui a fait des études sur des rats, qui les a exposés.
Le NTP, le Programme National de Toxicologie, qui a mené deux études qui ont coûté, je vais préciser, 25 millions de dollars. Ça a duré 10 ans.
Oui.
Ils ont étudié 3000 rongeurs, des rats et des souris. Et pendant 2 ans, ils ont pu constater, ils ont exposé les rats pendant 2 ans, ce qui correspond à 70 ans humains, disent-ils, je vous lis l'étude scientifique. Hein. Certains rats qui ont été exposés ont développé des cancers, d'autres pas. Et là où c'est totalement saisissant sur cette étude, c'est que aucune souris et aucune ratte n'a rien développé. Ce ne sont que les rats mâles qui ont été exposés, qui ont développé quelque chose. Donc oui, des rats exposés ont développé quelque chose, mais pas les femelles.
Alors, ça, on l'explique pas. Pourquoi
on l'explique pas
les femelles? Pourquoi l'OMS de l'autre côté pourrait trancher en disant oui, on a fait une étude sur tant d'années, l'OMS ne tranche pas réellement.
Mais l'OMS a classé les ondes radio comme possiblement cancérogènes pour l'homme en 2011 et également un risque d'impact sur la fertilité. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé dit à propos
des
ondes.
Je crois que personne ne dit qu'il n'y a aucun effet des ondes sur l'homme. Il y a des effets. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui auraient, comme on dit, des terrains favorables à certaines maladies?
Pourquoi pas, ça semble pas fou, ça, si?
Bah non, là, ça semble pas fou. Mais alors, comment on réagit par rapport à ça? Quand on est dans un monde ultra connecté, qui va le devenir de plus en plus.
C'est vrai.
La 5G arrive.
Oui.
On a tous des smartphones dans les poches. Même si on arrête d'avoir son smartphone chez soi, sa box, une borne wifi, on va pas demander à tous ses voisins.
Oui.
D'arrêter d'utiliser le wifi. Il y a des antennes relais qui inondent d'ondes tous les centimètres carrés dans les grandes villes.
On n'est pas condamné non plus à être malade si on est un citoyen,
voilà.
Pascal Savard.
Non, on n'est pas condamné.
On a des droits.
Mais comment est-ce qu'on réagit?
Oui.
D'une part, sur des symptômes qu'on n'arrive pas à définir clairement, comme on le disait tout à l'heure, et d'autre part, par une avancée technologique.
Qui va vraiment dans le sens fin des zones blanches. On en est à la 5G maintenant qui est annoncée. Enfin, je veux dire, un monde où éviter
on
les ondes devient impossible.
Internet, par rapport à tout ça, on a déclaré qu'Internet c'était un droit fondamental.
Absolument.
On n'a pas le droit de couper l'Internet à une personne.
C'est
rappelez-vous
tout à fait vrai.
Les affaires Adopi à l'époque où Adopi menaçait de couper Internet pour les gens qui téléchargeaient. La justice a déclaré que c'était l'accès à Internet était un droit fondamental.
C'est un droit fondamental, absolument.
Avec des contradictions qui sont quand même.
Des contradictions.
Des paradoxes.
En tout cas, ce que j'entends déjà, c'est qu'il n'y a pas les pour et les contre. C'est pas noir et blanc. Oui, il y a évidemment les ondes, ça a un impact sur nous, qui n'est pas forcément négatif et qui peut varier d'un individu à un autre. Et certains peuvent y être beaucoup plus sensibles. Jusque là, Sophie Pelletier, on est tous d'accord.
Oui.
Oui. Quand vous dites vous-même, vous êtes concerné, vous avez développé l'électro-hypersensibilité, dites-vous, sur votre lieu de travail, et vous vous êtes écarté de votre lieu de travail pendant 4 ans en restant chez vous, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le wifi chez vous? Il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est se mettre à l'abri?
Ah bah, c'est réduire notablement, effectivement, ses expositions.
C'est quoi réduire notablement ses expositions?
Déjà, à l'intérieur du logement, ça peut être effectivement votre propre Wi-Fi, les téléphones fixes de bureau sans fil qui peuvent émettre, les lampes dites économiques fluo compact qui sont assez émissives également. Aujourd'hui, c'est également la problématique des compteurs communicants qui défraye pas mal la chronique Linky. Également.
Oui, oui,
tout à fait. Et puis,
alors, chez après, vous, qu'est-ce qu'il y a chez vous qui a pas chez moi, ou qu'est-ce qu'il y a pas chez vous qui a chez moi?
Ah bah moi, j'ai tout enlevé. Hein. Je fais de l'internet avec un fil, en fait. Donc, je ne suis pas du tout coupée de la civilisation numérique.
Meilleure connexion.
Non, mais c'est très important. Électrosensible, ça ne veut pas dire ne pas avoir internet.
Ah bah, tout
ça
à
veut
fait.
Juste dire ne pas avoir de Wi-Fi.
Voilà, exactement.
Internet n'émet pas d'onde. Il y a aucun problème
le
avec
wifi,
internet.
C'est la mobilité, c'est les voitures autonomes.
Non, mais je sais bien. On voit bien que c'est un monde contre un autre, mais je voudrais juste, dans ce monde contre un autre, qu'on se redise bien qu'Internet n'émet pas d'ondes. C'est les relais.
Qui émet des ondes.
Non, mais c'est très important de le dire. Pour tous ceux dont vous avez
fait.
Vous n'êtes pas coupé du monde et vous n'êtes pas retourné à la
Pierre. J'ai un mari informaticien, je crois qu'il serait assez malheureux. Non, mais moi-même, je suis utilisatrice.
Vous n'êtes pas en pancho et vous n'êtes pas venu en mangeant des graines de quinoa. C'est
pas
ça que j'essaie de dire à ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions. C'est très bon, j'en ai mangé hier, c'était délicieux.
Mais effectivement, vous avez raison. Faut essayer de. Enfin, nous, ce qu'on porte comme message, c'est de sortir de cette vision un peu manichéenne et caricaturale qu'on a parfois voulu donner à cette problématique-là.
C'est vrai.
C'est un vrai problème de santé publique. Dans les annonces, on entendait un journaliste dire que peut-être 4 millions de personnes en France atteintes. Effectivement.
Comment on peut savoir? Parce que,
En France, il n'y a pas d'études.
Savoir.
Mais par contre, on a des chiffres à l'international qui sont tout à fait alarmants, hein, puisqu'on a entre 1 et 13% de personnes potentiellement sensibles aux ondes selon les pays et selon les études. Aujourd'hui, l'agence sanitaire nous dit sur ces chiffres-là une médiane de 5% de la population. C'est énorme, c'est un vrai problème de santé.
Sur des études.
Oui, tout à fait, des études scientifiques. Moi, je me base essentiellement sur des études scientifiques.
Okay. On va donner la parole à Jean-Marc qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Merci à vous, soyez le bienvenu Jean-Marc. Est-ce que cette question d'électrosensibilité est quelque chose que vous avez toujours eu dans votre esprit ou vous vous êtes dit, vous avez changé d'avis un moment ou à un autre?
Non, c'est tout simplement, moi c'est mon épouse qui est électrosensible.
Ouais.
Et donc depuis 6 ans, elle souffre d'électrosensibilité. Avant c'était une personne qui avait aussi également un téléphone portable, qui l'utilisait tout le temps, etc. Et en fin de compte, elle a eu beaucoup de soucis de santé. Bon bref, on a fait des tas d'examens et sur Saint-Étienne. Et donc on lui avait presque quasiment pronostiqué une leucémie. Donc mais sans juste par rapport aux symptômes, ces choses-là. Mais
comment pronostique-t-on une leucémie? Enfin, je comprends pas, Jean-Marc. Si vous...
C'est parce que comme elle était dans un état de santé vraiment très faible, on pensait qu'elle avait un empoisonnement quelconque.
D'accord.
Bon bref, à l'hôpital où on habite, et ils se sont vite rendus compte, bien sûr, que c'était pas ça.
Oui.
Et c'est ma femme qui a fait le rapprochement quand elle était, parce que si vous voulez, de temps en temps, on allait donc à la campagne, sans téléphone, etc., pour être un petit peu coupé, être tranquille, quoi, on va dire.
Ouais.
Et à force, petit à petit, elle a fait le rapprochement, puisqu'elle est enseignante, avec ses classes où tous les gamins ont des téléphones. Quand elle ressortait, qu'elle se sentait mieux. Quand elle re-rentrait dans les locaux, elle se sentait pas bien, etc.
Au début, donc, juste Jean-Marc, pardon, parce que c'est très intéressant, là. Au début, quand votre femme vous raconte ça, vous vous dites... Oh là, on l'a perdu là ou
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Tout
vous
à
êtes...
fait. Moi, je... Voilà, tout à fait. Donc, on nous a en se renseignant, en allant voir sur internet justement les symptômes qu'elle avait, on est tombé sur des associations, des gens Robin des Toits, des gens comme ça, qui donnent des symptômes, des types de symptômes, et c'était exactement ce qu'elle ressentait. Donc, des maux de tête, des nausées, des vertiges, des acouphènes, enfin la totale. Et donc, du coup, elle s'est rendue compte qu'elle était électrosensible.
Et donc, du coup, vous avez adapté, j'imagine, chez vous. Elle a plus de téléphone portable, en tout cas, pas allumé en permanence.
Ah non, elle en a plus du tout. Elle a plus de téléphone depuis plus de...
Vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous ?
Non, donc du coup la box, on a dû commander une ancienne box qui faisait pas parce que maintenant les box sont en Wi-Fi, etc. Donc on a recommandé une ancienne box. Tout à fait, tout est câblé chez nous. Et ma chambre à coucher, donc c'est comme une cage de Faraday. Donc j'ai fait avec du grillage fin, une mise à la terre, etc. Pour entourer toute la chambre, bon, au moins la chambre pour se protéger parce qu'on a la Wi-Fi des voisins qui bombarde. Et puis dès que j'allume mon téléphone, elle le sait. C'est vraiment pas moi, j'en ai un petit peu marre, excusez-moi, Maïtena, d'entendre des gens qui disent que c'est psychologique. Ouais. Parce que moi, il me suffit que je sois dans le salon, ma femme au premier étage.
Oui.
Si j'allume mon téléphone, elle le sait. Elle me dit, Jean-Marc, t'as allumé ton téléphone. Effectivement, je viens d'allumer mon téléphone. Ma fille qui a son téléphone aussi. Ma femme rentre à la maison. Elle me dit, il y a un téléphone d'allumé. Je fais, bah oui, ça doit être notre fille qui est en haut et qui a son téléphone et ça ne loupe jamais.
C'est incroyable. Alors, en face de moi, Sophie Beltier hoche la tête. Vous aussi, vous savez, si on allume un téléphone portable, Sophie, vous le ressentez?
Alors, plus maintenant, parce qu'effectivement, moi, je suis tombée malade en 2011 et à force de récupérer, il y a une espèce de chronicisation de la pathologie. Et pour certaines personnes, c'est moins évident, on va dire.
Oui.
Mais effectivement, chez un certain nombre de personnes, il y a une phase qui peut durer quelques mois, quelques années, où effectivement, on ressent comme des brûlures ou des sensations d'être irradié, des douleurs très vives, hein, des coups au cœur ou des douleurs dans la nuque, et assez immédiatement après, au moment d'une exposition, que ce soit un téléphone portable ou d'une Wi-Fi, effectivement.
Donc ça se ressent physiquement.
Et donc voilà. Alors là, c'est plus facile dans ces cas-là de faire le rapprochement.
Jean-Marc, qu'est-ce que vous ne faites plus depuis que votre femme est électrosensible? Parce que j'essaie de m'imaginer, moi.
Par exemple, le cinéma, elle va plus au cinéma, elle va plus dans des lieux où il y a beaucoup de monde avec des téléphones portables obligatoirement. Donc dès qu'il y a un groupe où elle évite les sorties comme ça. Alors elle se permet quand même de sortir parce qu'elle veut pas, elle subit, mais elle veut pas baisser les bras. En plus, elle est enseignante, donc je vous raconte. Les gamins. Alors bien sûr.
En même temps, si elle est au collège avec l'interdiction du téléphone, c'est plutôt pas mal.
Non,
j'essaie de trouver un avantage.
Elle est en lycée, mais de toute manière, les enfants sont super sympas. Ils coupent tous le téléphone.
Ouais,
très bien, elle leur en parle.
Ouais, c'est
donc
super.
Ils coupent tous le téléphone et vraiment ils prennent sa défense, c'est super. Ouais. Donc ça se passe comme ça. Et puis en plus, on a acheté un petit terrain à la campagne pour se protéger. Donc là, on habite en ville, mais on a investi dans un terrain en zone blanche. Enfin, pseudo zone blanche,
pour le temps que ça va durer, oui.
Bah, une zone naturelle, complètement zone naturelle, où on va fréquemment pour qu'elle puisse se ressourcer, mais de toute façon, elle, ça dure et.
Bien sûr.
C'est un cauchemar, quoi, en fait. On vit comme ça.
Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est extrêmement parlant, votre témoignage, parce que on sent que, voilà, vous avez fait la bascule, quoi. Vous êtes passé de quoi on parle à mais non, mais c'est vrai, en fait. Et, enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, en fait, ou si c'est faux. C'est pas le sujet de vrai ou faux, en fait. Il se passe quelque chose. Clairement pour votre femme, au point de devoir lui construire une pièce spécialement pour elle, pour l'isoler des ondes des autres, c'est tout à fait particulier. J'imagine que vous savez ce que c'est, Pascal et Sophie, un broyeur d'ondes. Sébastien nous envoie un message, on va en discuter. Vous allez nous expliquer ce que c'est. On continue de parler des ondes. Faut-il, oui ou non, se méfier de nos téléphones portables et de tout ce qui émet des ondes? On en parle sur RMC, il est 14h29.
RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Dans un monde où Internet est devenu un droit, comment fait-on quand on a un problème avec les ondes? On peut vivre avec Internet qui n'émet pas d'ondes, mais le Wi-Fi, les téléphones portables, les grille-pains, les radios, les instruments de radiographie, bien entendu, tout ça émet des ondes. Alors évidemment, plus ou moins fortes, à plus ou moins haut degré, mais certains d'entre nous sont plus sensibles que les autres, visiblement, à ces ondes et sont électro-hypersensibles. La justice a reconnu d'ores et déjà deux cas de personnes qui ont été reconnues malades en termes professionnels, accidents du travail, alors que la science, elle, n'arrive pas à déterminer, non, pas de manière en tout cas ferme et définitive, si les ondes sont nuisibles pour les êtres humains. Je dis non à Sophie Beltier qui secoue la tête en disant mais enfin non, pas de manière, la science n'arrive pas à être définitive, à dire oui, les ondes peuvent être dangereuses ou non, les ondes ne sont, sont nocives ou ne le sont pas. Il y a pour l'instant des doutes, il y a des études énormément, beaucoup, et il y a, allez-y nuancer si vous le souhaitez.
Alors, si, quand même, on a parlé tout à l'heure du programme américain.
Oui.
Et les experts, effectivement, ont reclassé, ont augmenté le niveau de preuve sur cette expérience, hein, qui a duré plusieurs, une dizaine d'années.
Oui.
Sur effectivement les ramales, le lien avec
qui
les ondes.
Qui a développé un cancer.
Est avéré, donc, le lien vis-à-vis de leur, du cancer de Serra a été classé comme avéré. Donc, l'Agence sanitaire française va réouvrir la question du lien, effectivement,
de toute façon,
cancer
études,
et ondes.
Il y a des études en permanence autour de ces radiofréquences sur la santé, mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, aucun conseil scientifique n'a dit oui, les ondes déclenchent des maladies. On peut le regretter. Que vous le regrettiez, je l'entends très bien. Mais est-ce que c'est le cas? Oui.
Voilà. C'est la construction de la science et du niveau de preuve. C'est un processus. Donc effectivement, il augmente.
Je suis pas en train de dire qu'ils étudient pas. Je dis juste que pour l'instant, ils n'ont pas conclu qu'il y avait une causalité entre cancer et ondes. Même si la justice française, elle, l'a reconnu par deux fois. Même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les ondes radio comme possiblement cancérogènes pour l'homme en 2011. Avec un impact éventuel sur la fertilité. Donc le doute, il est clairement là. Vous nous disiez, Pascal Semama, je vais repréciser Sophie Pelletier, que vous êtes présidente de l'association Prière Terme qui se bagarre pour faire connaître la dangerosité des ondes. Pascal Semama, vous êtes journaliste, vous, pour BFM TV. Vous nous disiez tout à l'heure, les ondes ont un impact certainement sur l'humain, bien entendu. Est-ce que c'est forcément négatif? Pas forcément. Et est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, évidemment pas. C'est ça.
C'est exactement ça. Et puis, bien sûr qu'il y a un... Ce qui est étonnant, c'est bien sûr la non-décision ou la non-affirmation de grands organismes scientifiques comme l'OMS, parce que de l'autre part, on impose quand même aux fabricants de smartphones de ne pas dépasser certains indices, un indice d'émission d'ondes, et certaines marques de smartphones même mettent en avant le fait qu'elles sont très en dessous des valeurs imposées par les pouvoirs publics.
On va préciser que l'onde est forte en énergie et que c'est l'énergie de l'onde qui plus ou moins dangereuse. Quand vous allez passer une radio, pourquoi est-ce que la personne qui vous fait passer une radio met un tablier de plomb? C'est pour se protéger de la force de l'énergie de cette onde. Évidemment, on ne peut absolument pas comparer l'énergie d'une onde qui va faire une radiographie à celle qui sort de votre téléphone portable.
Ou d'un
heureusement, d'ailleurs,
qui réchauffe un plat.
Absolument.
Il y a des ondes qui, on voit bien qu'il n'y a pas de chaleur physique.
Oui. Alors on va préciser les ondes qui sont dangereuses, les ondes à haute fréquence, les ultraviolets, les radiofréquences, c'est ça, Sophie Pelletier?
Oui, il y a plusieurs types d'ondes, donc ça va des extrêmement basses fréquences, l'électricité, les radiofréquences donc utilisées dans la téléphonie mobile, le Wi-Fi, effectivement, jusqu'à des choses beaucoup plus hautes. Et demain, la 5G montera effectivement à des fréquences très très hautes.
Et ça va être encore plus compliqué pour ceux qui sont électrosensibles ou ça va déclencher de nouveaux électrosensibles?
Peut-être certaines personnes seront sensibles à certaines fréquences et pas à d'autres. Et puis de toute manière, ce qu'on voit avec le développement des technologies, c'est globalement l'augmentation de l'exposition pour tous et la précocité aussi, de plus en plus de jeunes sont exposés.
De facto, nous, quand on est né, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'onde, en tout cas pas autant. Nos enfants, eux, ils grandissent dans les ondes de jour zéro, in utero, jusqu'à la fin de leur vie. Ça peut éventuellement changer la donne, ça, Pascal Semama, ou pas?
Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des lois qui sont quand même tombées pour éviter qu'on expose des enfants dans les crèches, dans les écoles maternelles à des ondes, mais quand bien même...
C'est la loi abeille.
C'est la loi abeille, exactement.
On l'appelle ça la loi abeille. Parce que,
Le nom de la personne qui l'a déposé.
C'est
trop mignon.
Donc alors, on va le dire, avec cette loi abeille, il y a un, la transparence, et là ce que je vais vous dire, les bras s'en tombent. Avant, quand on installait des antennes relais, on les installait point, et on avait besoin de l'autorisation de personne. Ce qui est quand même extraordinaire. Maintenant, il faut informer au préalable le maire et les présidents des structures intercommunales. Merci la loi abeille. Le Wi-Fi est interdit dans les crèches et dans les garderies, mais pas du tout en maternelle, où il doit être éteint quand on n'en a pas besoin, mais il est utilisé en maternelle. Et il doit être désactivé pendant en dehors des activités numériques pédagogiques. C'est ça la fameuse loi abeille. Pour se prémunir des... Qu'est-ce que vous voulez intervenir?
Oui, juste simplement pour dire qu'effectivement, cette loi abeille qui date de 2015, malheureusement, se voit détricotée progressivement, puisque récemment, avec la réforme de la loi sur le logement, les délais de concertation au niveau des maires a été notablement raboté.
Donc, alors, pour ceux qui sont concernés par ces sensations de brûlure, c'est pas des sensations, c'est des douleurs. Hein. Vous le diriez comme ça, Sophie ?
Des douleurs, des sensations d'irradiation. Ouais. Alors, pas chez tout le monde, mais effectivement, ouais, chez certaines personnes, on peut avoir ce type de réaction.
Alors, il y a des solutions. Tout à l'heure, nous avions quelqu'un qui nous racontait comment il protégeait sa femme, qui est devenue électrosensible, avec une sorte de cage de Faraday, en fait, avec des murs entourés de grilles de métal pour empêcher les ondes du wifi des voisins d'arriver, bien entendu. Et puis nous avons Karim qui est avec nous au 3216. Bonjour Karim.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. Vous travaillez autour de ça, autour des problèmes électromagnétiques, Karim.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que vous proposez, vous ?
Nous, moi, je propose des solutions.
Eh ben, on vous écoute, Karim. Comment vous dire ?
Voilà. Donc, en fait, les solutions, en fait, sont pas si compliquées que ça, et oui et non, et ça dépend des cas. Moi, ce que je propose avec mon entreprise, je suis un auto-entrepreneur en ce moment, et le but du jeu, c'est de faire appliquer déjà la loi Abeille.
Ouais.
Donc de faire des cartographies dans les crèches et les établissements qui accueillent la petite enfance, en fait, les petits enfants. Parce qu'en fait, la logique, ce serait ça, en fait. Ce serait de protéger, en fait, les enfants partout et les adultes dans leur lieu de couchage.
Oui.
Parce que comme disait la personne qui est passée tout à l'heure avant moi, on peut se soigner.
Alors, expliquez-nous ce que vous proposez, Karim. Dites-nous, Franco.
Franco, mais c'est des solutions de protection, en fait.
Mais c'est quoi les solutions de protection ? J'essaye de savoir.
Par exemple, dans les crèches ou chez vous ?
Ben, chez vous, à la maison.
Mais chez moi, à la maison, c'est éliminer. En fait, il y a 80% de la pollution, de cette pollution, provient de nous-mêmes, en fait. Si on n'est pas en face d'une antenne ou si on n'est pas à côté d'un groupe électrique, la pollution provient de nous-mêmes. En fait, moi, je prends une hygiène électromagnétique. Il y a des gestes simples à faire. Il y a des appareils à bannir.
Comme quoi ?
Comme le micro-ondes, par exemple.
Oui.
Comme le téléphone DECT.
Oui.
Le DECT, c'est le téléphone sans fil que la plupart des gens utilisent.
Oui.
Il existe des téléphones qui sont à peu près au même prix. Mais qui sont low radiation. Ce qu'on appelle low radiation, ça veut dire qu'ils émettent pas d'ondes, en tout cas moins d'ondes.
Sophie Pelletier, vous connaissez ça, des téléphones low?
Non, il y a un tas de solutions pour effectivement essayer de minimiser ces expositions, voire se protéger. Mais effectivement, le plus simple, c'est quand même de pas s'hypersensibiliser.
Oui, bah oui, mais enfin ça, on n'a pas le choix. On est au monde. Enfin, c'est très compliqué.
Si on peut quand même faire attention en étant informé, on peut quand même minimiser ces expositions.
Alors, avant de voir toutes les solutions qui sont vendues, parce que c'est aussi un marché, j'aimerais qu'on voit tous les gestes qu'il ne faut pas faire. Alors, très bien. On va passer ça en revue, parce que c'est quand même... La plupart des gens rangent leur téléphone portable dans leur poche, avant ou arrière. Est-ce que c'est dangereux, oui ou non ? Pascal Samama, vous le recommandez ou vous dites ne faites pas ça ?
Il y a une émission d'ondes, les organismes sanitaires conseillent de ne pas mettre un appareil qui émet des ondes à plus de, vous allez me dire, 2 centimètres, je crois, d'une région sensible, donc pas
c'est
sur le cœur.
C'est quoi une région sensible? Bah, le cœur, les organes.
C'est les organes vitaux, tout simplement. Donc
faut pas mettre son téléphone à côté de son cœur, à côté des poumons, à côté des parties génitales.
C'est bien,
ok, donc on porte pas son téléphone sur soi.
Globalement ça, mais après.
Bah, oui.
Il y a le fait d'éteindre ces box le soir, la nuit. Il y a un tas de petites choses comme ça. Mais en vrai, et j'en reviens à ce que je disais tout au début, on va pas demander à tous ses voisins dans un immeuble de faire la même chose.
Non, je sais, mais je voudrais qu'on passe quand même en revue avant de se dire qu'on ne peut plus rien faire et qu'on va tous subir. On peut peut-être faire 2-3 trucs. Pas mettre son téléphone dans sa poche, c'est une bonne idée.
Éteindre son téléphone la nuit, c'est déjà une bonne idée.
Éteindre son téléphone, c'est le mettre en mode avion ou c'est l'éteindre?
Éteindre son téléphone. Pour moi, ce serait éteindre son téléphone.
Quand c'est en mode avion, ça continue d'émettre des ondes?
Bah oui, il y a un écran, il y a quand même, il y a une énergie qui se diffuse à travers le téléphone. D'après moi, quand on commence à avoir des doutes, autant l'éteindre. En mode avion ou éteint, ça revient à peu près à la même chose. Hein.
Tous les ados, les enfants, les jeunes adultes qui dorment avec leur téléphone sur leur oreiller, il se passe quoi là? Vous dites quoi là, Sophie? Vous hurlez?
Alerte,
vous
alerte.
Alerte
rouge.
Ça vous terrorise.
Et les jeunes filles aussi, pas dans le soutien-gorge, on voit ça.
Oui, il y a ça.
On voit des gens qui coincent le téléphone sous le casque de moto.
Ouais.
Enfin voilà, ce genre de choses. Donc plus c'est près... Et notamment effectivement des organes sensibles, le cerveau, la poitrine chez les jeunes filles, les organes reproducteurs, tout ça c'est vraiment, il faut vraiment faire très très attention. Après utiliser plutôt des SMS, téléphoner.
Ah bah, c'est fait pour parler. Enfin, j'ai un moment.
Oui. Bah, alors après, on peut.
Le casque que vous avez est une meilleure solution.
C'est le fameux kit oreillette. Le téléphone du cerveau. Les AirPods. On fait quoi avec ça?
Et les AirPods.
Vous savez les là où vous avez tout compris sans fil. Ah. Est-ce que c'est dangereux ou pas?
Alors c'est en émission Bluetooth. Il y a une petite émission qui est moindre que celle du téléphone. Oui. Ça c'est clair. Donc ça limite par rapport, comparer le téléphone à l'oreille et les moniteurs.
Ça limite. Bon.
Ça limite. Mais effectivement, ça n'est pas.
Mais il y en a quand même. D'accord. On le disait tout à l'heure. Il y a d'autres gestes qu'il faut pas faire. Vous en voyez d'autres, Pascal?
Non, globalement c'est ça. Hein, c'est
vous couper vous éteignez
chez
votre
soi.
Wi-Fi la nuit?
Oui, non, pas du tout.
Pas du tout. Hein.
Non, je me réveille avec mon smartphone, même si ça fait hurler. Ouais.
Non, mais on fait tout ça.
Mon smartphone me sert de radio, sert de réveil, me sert à tout.
Non, mais
bon,
voilà, donc on est tous pareils.
Donc on est tous pareils globalement.
Il y a des solutions qui sont illégales, comme le brouilleur d'ondes. Sébastien nous dit, moi j'ai acheté un brouilleur d'ondes pour être tranquille et c'est très bien comme ça. Ça va très très bien. Et d'ailleurs, Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Maïtena, bonjour à votre équipe.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous Sébastien.
De rien.
Vous savez que c'est illégal le brouilleur d'ondes?
Ah, carrément, oui.
Ok, alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce choix tout en sachant que c'était hors la loi?
Bah après, moi je me suis renseigné, j'ai vu que même des instituts en avaient dans leur classe pour être tranquille. En fait, pour plus que les élèves ils reçoivent des appels ou ils envoient des messages ou ainsi de suite. Et en fait, c'est illégal surtout si on s'en sert dans la rue.
Oui.
Parce qu'on ne doit pas en fait empêcher les gens de pouvoir communiquer par téléphone au cas où il y a un accident ou au cas où il y a quelque chose en fait.
Oui.
Donc moi, je m'en sers surtout en fait à la maison, chez moi.
Oui.
Et aussi, quand je vais en vacances et qu'il y a des amis qui sont accros à leur téléphone, qui les lâchent pas, quoi. C'est pour être en vacances avec des gens et puis qu'en fait, ils sont avec nous sans être avec nous, c'est chiant.
C'est énorme.
Donc, autant qu'ils restent chez eux, quoi.
C'est monstrueux. Si jamais je pars en vacances à côté de vous sans le savoir, alors tous les ados toute la forêt d'ados qui sera autour de vous n'aura plus accès à Internet et va taper des crises de nerfs. C'est très bien, c'est très rigolo.
C'est même plus Internet en fait, c'est même le réseau téléphonique en fait. On peut plus
appeler
sur rien.
Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision, Sébastien?
Bah c'est en se promenant dans les métros en fait et tout ça, et les gens sont toujours accros à leur téléphone, on lâche plus, et même les gens qui sont à côté de nous et qui parlent, et leur conversation s'en fout de ce qu'ils disent aux autres en face, donc ils parlent tellement fort que tout le monde entend.
Non mais attendez, c'est pas du tout lié à la santé en fait, c'est juste une histoire pour vous de citoyenneté.
Voilà, c'est de tranquillité quoi, et en même temps
énorme.
Ça marche sur la santé aussi quoi.
Vous êtes invraisemblable. Alors, donnez-nous votre avis Sophie Pelletier sur le brouilleur d'ondes.
Sur le brouilleur d'ondes, en fait son fonctionnement, je parle sous le contrôle. En fait ça émet fortement des ondes.
Merci,
qui brouillent en fait.
Merci,
les autres encore, ondes, donc effectivement pour le côté santé c'est assez raté, pour le côté cocasse de la crise de nerfs de ceux qui veulent se connecter c'est sans doute réussi,
très
mais
bien.
Pas pour la santé.
C'est drôle, écoutez Sébastien, est-ce que les gens qui vivent avec vous sont au courant?
Non, du tout.
Ah vous le dites pas, c'est un secret?
Ah bah oui, parce que même des fois dans la rue, je me promène, j'ai dans la poche, et puis c'est la taille d'un paquet de cigarettes, quoi. Donc il y a juste un bouton on-off. On se promène, les gens sont au téléphone, sont en train de gueuler et tout ça, et puis on appuie sur le bouton, puis à ce coup, les gens ils savent plus ce qui se passe,
non,
quoi. Donc
pas
plus de réception.
C'est un pirate des télécoms, hein.
Sébastien, je ris, mais c'est très mal ce que vous faites, Sébastien. Alors vraiment.
Je sais, mais moi ça m'amuse beaucoup.
Non mais vous rendez compte si tout le monde fait ça?
Ouais, bah après on n'est pas les seuls, hein. Je me suis renseigné, j'ai vu des forums et il y a plein de monde aussi qui sont comme moi et ça se vend sur internet, ça vaut rien du tout.
Mais c'est pas vrai. Alors ça vous voyez Sébastien.
Euros,
Sébastien, pardon parce que vous avez quand même 37 ans. Moi j'essaie d'expliquer à de jeunes adultes ou à des ados que c'est pas parce que c'est en vente libre que c'est autorisé et vous si vous êtes adulte et vous faites ça, comment on fait nous pour élever les enfants?
Après, chacun son problème. Hein.
Ok, bah super. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous au 32-16. Je suis tout à fait j'ai le sourire, mais bon, je rappelle donc que c'est illégal, même si ça se trouve assez facilement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent, Sophie Pelletier, qui vous ont ramené vraiment vraiment en arrière, où vous dites mais quand même, c'est pas normal que je puisse pas faire ça?
Alors, j'ai personnellement, j'ai de la chance parce que j'ai réussi vraiment à à me rétablir suffisamment pour pouvoir moduler et me réexposer et revivre quasiment normalement. Mais par contre, effectivement, il y a eu toute une période de ma vie, et c'est ce qu'on rencontre chez certains personnes qui témoignent, des impacts sur la vie sociale énormes, avec des personnes qui sont, dans les cas les plus graves, contraintes de rester chez elles, enfermées. On a des personnes qui sont contraintes de s'enfuir de chez elles parce qu'elles ne supportent plus justement la wifi des voisins, etc. On a des situations
donc, il y a des solutions, là on le rappelle, il y a des solutions pour lutter contre les ondes, y compris de ses voisins. C'est donc cette fameuse cage de Faraday dans laquelle on peut...
Voilà, ça, répond à un principe physique, effectivement, de faradiser, c'est-à-dire par du grillage métallique, d'atténuer ou quasiment couper les ondes d'extérieur.
Toutes les informations, évidemment, sont à retrouver sur Priartem, sur le site de votre association, c'est .fr ou .org, c'est quoi ?
.com.fr,
donc Priartem, Priartem.fr. Toutes les règles donc de la bonne hygiène pour essayer de rester loin de ces ondes. Le débat n'est certainement pas clos, Pascal, on se reverra et on va en reparler.
J'espère, oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect business, parce
qu'il
y a des peintures murales,
il y a des trucs pour les bébés, pour les animaux, pour tout. Merci beaucoup à Karim d'avoir été avec nous, qui propose des diagnostics électromagnétiques. On continuera de discuter cette discussion certainement un jour ou l'autre, mais pour l'heure, Rémi nous attend. Merci à vous deux, belle journée.